BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé et nous sommes aussi en direct sur le web 10h midi et puis n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez peut-être en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, l'immobilier, comme tous les jours, on va zoomer sur l'assurance emprunteur avec l'équipe CAFI et puis Marie-Cœur de Roy. Vous savez, cette assurance associée à un crédit, notamment les crédits immobiliers, il y a 16 millions de contrats en France. On va décrypter cela, déchiffrer, rechiffrer cet univers de l'assurance emprunteur dans quelques minutes. Le question-réponse du jour portera sur l'automobile électrique et la bourse. Comment performent les pure players de l'électrique sur les marchés? Les investisseurs, vous, nous, redoutons une guerre des prix et une chute des marges face à l'arrivée de la concurrence chinoise. Qu'en pense Antoine Larigauderie, amateur de voitures et expert financier, et Thomas Veillé d'investir.ch? Réponse à vos questions d'ici une vingtaine de minutes. Et puis aujourd'hui, on investira dans le plan épargne retraite. Vous savez, dans Tout pour investir, on aime bien ce produit parce qu'il démocratise la retraite, il vous force à vous poser la question. Il a déjà séduit 10 millions de Français et de Françaises. Comment expliquer cet engouement? On parlera également du plan épargne retraite populaire et on répondra à Raphaël, un de nos éditeurs qui nous a écrit pour expliquer sa situation compliquée. Nous allons répondre éventuellement à vos autres questions, celles que vous allez nous adresser. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr, comme Franck qui nous a déjà écrit au sujet du PER, mais aussi en message privé sur LinkedIn, je vous lis. Nous partons à Euronext faire le point sur notre CAC 40. Écoutez, pas très en forme ce matin. On est vraiment en dessous des 8000 points. Il y a même un gros test autour des 7900 points qui est en cours. Antoine va nous raconter ça.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, notre CAC 40 s'enfonce davantage. Racontez-nous ce qui se passe depuis une heure.
Oui, une sous-performance notable d'ailleurs par rapport aux autres indices européens. On est en baisse de 0,9%. On est quasiment au plus bas de la séance. 7913, effectivement, on teste les 7900. Désormais, repli un petit peu moins sévère du côté des valeurs techno. L'Euronext Tech Leaders ne perd que 0,28%. Bien noté que c'est très partagé du côté des autres places européennes. On a le DAX à Francfort qui est quasiment à l'équilibre. Une petite baisse de 0,2%, moins 0,6% pour l'Eurostox 50. Des marchés un petit peu perdus après un jour férié, il y a un effet technique notable et puis aussi un petit peu de volatilité autour des résultats d'entreprises qui ont été publiés aujourd'hui. Lendemain de Fed aussi, on a bien du mal à observer et à décortiquer les tendances de dynamique monétaire. On y reviendra dans quelques instants, mais tout ça au final, ça nous donne certains secteurs qui sont attaqués. Alors notamment le secteur pétrolier, le secteur énergétique, un Total Energy qui recule de 2,8% à 66,66 €. On a Sanofi, moins 1,6%, 91,50 €. Pas de chance, on a deux très grosses pondérations du CAC 40 qui tanguent aujourd'hui. Et puis alors le secteur des semi-conducteurs et notamment ST Microelectronics qui perd 2,2% à 36,81 €. C'est vrai qu'on a eu des résultats plutôt convaincants de la part de Qualcomm hier soir après la clôture de Wall Street. Mais avant ça, la veille, on a eu les résultats d'AMD et autant dire que ça a été une douche froide pour l'ensemble du secteur des composants, notamment ceux qui sont exposés à l'IA et à d'autres secteurs qui sont un petit peu en souffrance ces derniers temps en matière de perspective. Donc du coup STMicro perd 2,19% à 36,82 €. La plus forte baisse du CAC, elle est pour Stellantis qui recule de 3,6% à 20,14 €. Alors en revanche, très belle hausse pour Téléperformance qui gagne 10,2% à 94,20 €. L'activité vraiment s'améliore au premier trimestre et c'est salué par le marché. À noter la belle hausse d'Engie qui prend 2,2% à 15,17 €. Et puis des résultats bien arbitrés, ArcelorMittal qui gagne 1,4% à 23,92 €. Mais on a aussi Imerys, plus 9,5 à 33,16 € et Worldline plus 6,79 € à 10,47 €. Le CAC donc moins 0,92 € 7911 et le rouen dollar 0,710 €. Lorraine.
Merci cher Antoine, ça va être l'heure de votre histoire après la Fed et les résultats qui sèment le trouble. Nous allons parler stagflation avec vous.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Et oui, parce qu'on entend de plus en plus parler de ce scénario de stagflation. Tiens, on en parlait d'ailleurs lundi avec Thomas Veillé d'Investir. Et la Fed, mine de rien, commence à s'en inquiéter, du moins à demi-mot. Racontez-nous ça.
Ben oui, en fait, c'est arrivé pendant les commentaires de Jerome Powell après la décision de la Fed. Décision de la Fed, donc statu quo sur les taux, et statu quo qui devrait se prolonger, puisque le président de la Fed note que les pressions inflationnistes ont bien du mal à se résorber. Et alors, on a eu là-dessus pas mal d'indicateurs qui ont porté de l'eau à son moulin, et notamment l'enquête ADP pour l'emploi du secteur privé qui a été publiée hier, qui montre qu'effectivement, il y a des pointes salariales. Et on pourrait justement en avoir confirmation cet après-midi, parce qu'on a les chiffres des coûts du travail et de la productivité aux États-Unis. Et là, on pourrait assister au premier trimestre à un léger dérapage du côté des plus 2,3%. Donc, confirmation des tendances actuelles. Mais parallèlement, juste avant ce rendu de décision de la Fed, on a eu tout un tas d'indicateurs. Le PMI manufacturier américain qui repasse sous la barre des 50 points. Vous savez, les 50 points, c'est la ligne qu'il y a entre expansion de l'activité et une baisse de l'activité, vraiment du côté des États-Unis. Là, on passe dessous. On a également du côté des Fed régionales des indicateurs d'activité qui ont tendance eux aussi à décroître. On a également tout un tas d'indicateurs qui montrent véritablement qu'on est peut-être un tournant du côté de l'économie américaine. Et justement, cette enquête ADP de l'emploi privé montre que les embauches sont au plus bas depuis janvier 2018. Sur le mois écoulé. Donc, ça nous donne un cocktail à base de ralentissement économique. Alors, à court terme, on voit que les dynamiques sont quand même plus positives à long terme. Mais que, justement, ce milieu d'année, cette fin de printemps, commence à sentir légèrement le roussi pour la santé de l'économie américaine. Et parallèlement, des pressions inflationnistes qui ne ralentissent pas. Et tout ça, ça donne un petit mot, c'est stagflation, c'est un mot valise que les marchés, que les analystes commencent à employer pour qualifier la situation. On a Jerome Powell qui, pendant sa conférence de presse, on commençait par là, disait « Oui, j'ai entendu parler de ces histoires de stagflation, je ne vois pas d'où ça sort, compte tenu des indicateurs du moment. » Alors que, précisément, si on les regarde, il y a quand même quelque chose qui commencerait vaguement à ressembler à ça si la situation perdure avec exactement les mêmes dynamiques. Donc on sait que c'est volatile, on sait qu'il y a parallèlement quand même des espoirs de voir la situation s'améliorer du côté des États-Unis, mais ça va être sans doute l'occasion pour les marchés de revoir un petit peu leur scénario. D'ailleurs, concernant d'éventuelles baisses de taux de la Fed, le marché semble avoir écarté dans ses anticipations là pour l'immédiat une absence de baisse de taux avant la fin de l'année. Il y aura une ou plusieurs baisses de taux et a priori, ça devrait commencer dès le mois de septembre, donc higher for longer, mais un tout petit peu. Donc on voit que les scénarios de marché commencent doucement à s'équilibrer. On espère que ça va continuer, sinon la machine pourrait clairement se gripper.
Higher for longer. En tout cas, aux États-Unis, une menace réelle de stagflation. Cette séquence, ce décryptage est à retrouver en podcast et en replay, comme toutes les histoires financières d'Antoine sur notre site et notre application. Antoine, vous restez surtout pas trop loin de votre caméra parce que vous allez nous rejoindre dans un gros quart d'heure pour continuer à parler de bourse. On va spécifiquement s'intéresser au secteur de l'électrique en bourse. Qu'est-ce que ça donne? Comment ça doit vous concerner en tant qu'investisseur particulier? Réponse dans un gros quart d'heure. À tout de suite, Antoine. Pour le moment, c'est l'heure de parler immobilier. Marie-Cœur de Roy, notre invitée, arrive. À tout de suite.
Tout pour investir. La place de l'IMO.
Nous aurions aimé avoir un débat sur les transports parisiens, mais nous allons plutôt nous concentrer sur ce qui vous occupe, cher auditeur. Nous allons parler d'immobilier et en particulier d'assurance emprunteur. Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Stéphane Bolelli est avec nous de l'équipe CAFPI. Vous êtes directeur des assurances et des placements. Vous allez nous parler d'assurance emprunteur et s'il vous plaît, vous allez faire ça de manière sexy. Parce que nous, on aime bien avec Marie ce sujet, parce qu'il est important pour les emprunteurs que nous sommes ou que ceux et celles qui nous écoutent sont. Rappelez-nous un peu de contexte.
Bonjour à tous les deux. Donc l'assurance emprunteur, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est l'assurance que vous prenez avec un crédit, généralement un crédit immobilier, et qui vous protège en cas de décès.
C'est une grosse majorité d'emprunteurs sur l'immobilier qui prend une assurance de prêt.
L'immense majorité, oui. Ça vous protège en cas de décès, d'invalidité, donc permanente, ou d'incapacité. Aujourd'hui, c'est un marché qui est capté par les banques. Pourquoi? Elles vous proposent leur contrat au moment du financement, au moment où elles vous octroient un crédit.
C'est ça, c'est en gros, j'arrive chez mon banquier, je négocie mon taux d'intérêt et parfois j'ai un peu tendance à oublier qu'il faut aussi parfois négocier son assurance de prêt qui va avec. Mais le banquier, lui, se fait un malin plaisir de me dire bon, c'est le taux d'intérêt qui compte, l'assurance de prêt.
Disons qu'au moment du financement, ce qui vous obnubile, c'est votre financement, c'est de sécuriser votre achat immobilier. C'est ça votre projet. Et du coup, vous vous concentrez généralement, en effet, sur le taux du crédit et vous prenez l'assurance qui va avec, puisque c'est une très bonne couverture.
Sauf que, les tarifs des banques sont quand même toujours nettement plus élevés que chez les assureurs alternatifs.
Alors, il y a l'opportunité, en effet, de faire des économies en passant par un assureur alternatif, en faisant jouer tout simplement la concurrence.
On a parlé d'un marché, enfin, pendant des années, enfin, moi j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à couvrir ce secteur depuis une dizaine d'années, qu'on me parle d'un marché à plusieurs milliards d'euros captés avec des banques en quasi-monopole, avec des tarifs pourtant deux à trois fois moins élevés chez les assureurs alternatifs. Et pour cause, on n'a pas ouvert ce marché, on a mis du temps à ouvrir ce marché à la concurrence, il était bloqué. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, comment, dans quelle mesure je peux changer mon assurance de prêt ou en tout cas ne pas prendre l'assurance de la banque ou arrêter de la prendre chez ma banque?
Alors, le législateur y a beaucoup travaillé. Il y a eu plusieurs lois qui sont passées depuis maintenant 15 ans pour justement ouvrir le marché de la concurrence. Ça a commencé en 2010. Vous pouviez choisir l'assurance de votre choix au moment du financement du crédit. Mais vous l'avez évoqué, Marie, au moment du financement du crédit, on se concentre plutôt sur son projet immobilier, pas forcément sur l'assurance. Du coup, le législateur a évolué. En 2014, nouvelle loi pour vous permettre de changer d'assurance la première année. Mais bon, une fois que vous avez fini les démarches administratives, vous n'avez pas envie de vous y replonger la première année.
C'est ça, on avait 12 mois suivant la signature du contrat pour changer l'assurance de prêt.
Exactement, et on ratait la date. Du coup, 2018, le législateur revient à la charge et vous permet de changer d'assurance chaque année à date anniversaire. Effet limité, pourquoi ? En fait, vous ratez cette date anniversaire. Puis, quelle date vous la trouvez ?
Le préavis.
Il y a 2 mois de préavis, donc vous ratez cette date-là. Donc, 2022, la loi Lemoine. Donc là, vraiment, l'ouverture totale. Je pense qu'on est au bout de la démarche, ça y est. Vous pouvez changer d'assurance maintenant, à tout moment, sans contrainte. Il n'y a plus de notion de préavis. Il n'y a pas de date à respecter. Vous êtes totalement libre.
Oui, enfin, on pourrait faire la litanie des lois des gens qui nous ont dirigés. Il y a eu la loi Lagarde, il y a eu la loi Hamon, il y a eu un amendement, Bourquin. Là, maintenant, vous venez de parler de la loi Lemoine. Reste que dans près de 90% des cas, on va toujours chercher l'assurance de sa banque. Donc, c'est que ces lois marchent, en tout cas, pas tout à fait très bien pour l'instant.
Alors, elles fonctionnent. Je pense que la loi Lemoine, c'est la bonne. Donc, vous avez raison. Au moment du financement, aujourd'hui, les Français prennent dans 9 cas sur 10, dans 87% des cas, l'assurance de la banque. Mmh. En revanche, par la suite, ils peuvent changer. Et c'est tout le sens de la loi Lemoine. C'est changé à tout moment, il n'y a plus de date à respecter, on peut vraiment le faire tout de suite.
Stéphane, on va mettre les pieds dans le plat. Que là, on tourne autour du pot, mais oui, parce qu'au démarrage du crédit, même si, pour peu qu'on sache, parce qu'il y en a qui ne savent même pas, donc c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, mais même si on sait que potentiellement on n'est pas obligé de prendre l'assurance de la banque, même si on sait que la banque, elle nous propose des tarifs qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, comme vous le disiez, on est tellement content que la banque nous accorde le crédit, qu'on se dit, je ne dis rien, je prends avec l'idée d'aller ailleurs. C'est à peu près ça l'idée.
Ça existe, bien sûr, vous pouvez faire ça.
Non, c'est pas ça existe. C'est globalement, on le fait soit parce qu'on le sait pas, et quand on le sait, le premier conseil quand même qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est dis oui, et on verra après, parce qu'on a l'opportunité de pouvoir partir après.
Exactement, on peut changer après, et les Français l'ont bien compris. Aujourd'hui, donc on l'a dit, dans 9 cas sur 10, les Français prennent l'assurance de leur banque, mais sur le stock de crédit aujourd'hui, c'est que dans 8 cas sur 10. Il y a 8 Français sur 10 qui ont l'assurance de leur banque. Preuve que il y en a déjà 1 sur 10 qui a changé.
Qui change en cours de route. Après, moi, ma question, elle est là. Enfin, je rejoins la question de Lorraine. On a eu des lois, en veux-tu, en voilà. Alors certes, les premières étaient peut-être pas géniales, elles se sont un peu machin. Mais souvent, on nous a dit que les banques ne jouaient pas le jeu. Typiquement, sur la fameuse date anniversaire du contrat, combien on a eu de témoignages qui nous ont dit, mais en fait, pas du tout, ils nous disent non, ils font courir le temps, machin, etc., pour que je rate ma fenêtre de tir. Enfin bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez sincèrement nous dire que les banques jouent le jeu?
Oui, les banques jouent le jeu. C'est la loi, donc elles la respectent. Alors, pas toujours dans les délais. Par exemple, la loi parle de 10 jours pour finaliser la démarche et émettre l'avenant à l'offre de prêt. D'accord, donc les 10 jours ne sont pas toujours respectés.
C'est pas toujours, c'est, je crois, de mémoire, 17% des banques qui respectent, je crois que c'est un délai de 11 jours, et c'est 17% des banques qui respectent ce délai de réponse.
Ça peut prendre quelques semaines de plus, mais globalement, si vous êtes bien accompagné par un professionnel qui fait les démarches correctement, qu'on voit la lettre recommandée, la bonne adresse, etc., ça se passe très bien en plusieurs semaines.
D'accord, mais bon, déjà sur les délais, il y a d'autres trucs dont on parle. Alors, ça va être un peu technique pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, mais on va le dire.
Pas trop.
Quand vous arrivez, pas trop, mais sauf que c'est la clé, en fait. Pour pouvoir changer d'assurance de prêt en cours de route, il faut que la nouvelle assurance vous apporte des garanties au moins équivalentes que la première assurance de prêt, ce qui est logique, puisque la banque vous accorde le crédit immobilier. Très bien. Et donc, ce dont on nous parle, c'est des banques qui nous feraient signer au démarrage du crédit une assurance de prêt avec des garanties pas forcément nécessaires et peu substituables. Est-ce qu'il nous bloquerait avec cette assurance-là, rendant complètement impossible le changement pour la concurrence? Vous le constatez, ça?
Disons que Ce qui a été mis en place, c'est des critères d'équivalence, de manière à pouvoir comparer les contrats entre eux et dire si oui ou non deux contrats sont équivalents. Donc il y a 18 critères principaux qui ont été identifiés. D'accord, la banque peut en retenir 11 parmi ces 18 critères. Les acteurs alternatifs, hein, comme CAFPI, voilà, les courtiers, ont une gamme de contrats qui respectent tous les 18 critères, de manière à toujours être capable de substituer en fait, le contrat de la banque avec un contrat alternatif. La banque peut retenir 11 critères, généralement elle en retient moins, parce que son propre contrat respecte moins que 11 critères parmi les 18 critères d'équivalence qui ont été définis. Mais si vous respectez bien les critères d'équivalence, vous pouvez changer d'assurance.
Non, mais Stéphane, on en a parlé hors antenne, mais par exemple, tous les trucs de garantie de perte d'emploi, il y a certaines banques qui proposent des garanties de perte d'emploi qui d'abord ont assez peu de sens. Parfois, ça va jusqu'à la fin de la durée du crédit et non pas jusqu'à la fin de la vie active. Je prends un exemple de quelqu'un dont le crédit courrait jusqu'à ses 75 ans, par exemple. On sait bien qu'à 70 ans, a priori, il n'est plus au travail. Et pour autant, on a cette garantie perte d'emploi qui court jusqu'à la fin de la durée du crédit. Si moi, emprunteur, je vais chercher une assurance alternative et que cette garantie-là, on me la propose, mais à un coût énorme parce que, pour le coup, c'est des garanties qui coûtent très cher pour les assureurs alternatifs, bah, ça veut dire qu'en fait, j'ai aucun intérêt à passer à la concurrence et je me suis fait piéger au démarrage de mon crédit quand même.
En fait, tout va dépendre si la banque avec qui vous avez choisi pour votre financement a retenu la perte d'emploi comme un critère d'équivalence. Si elle l'a retenu comme un critère d'équivalence, donc c'est 8 critères de plus par rapport aux 18 que j'évoquais précédemment, vous devez apporter un contrat qui apportera...
Mais on est d'accord que ça me piège. On est d'accord que ça me piège.
Disons que chacun joue un petit peu avec ses armes pour retenir et capter la clientèle. Mais maintenant, c'est au courtier de justement apporter un contrat équivalent et qui répond du coup à ses demandes de garantie de perte d'emploi.
Et il faut qu'on finisse ce question-réponse sur l'assurance emprunteur en parlant du questionnaire de santé. Parce que c'est un sujet qui concerne particulièrement ceux et celles qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte autour de ces questionnaires de santé, Marie?
C'est qu'on a défini en même temps, c'était la loi Lemoine. Alors, c'était le côté positif ou négatif. Enfin, bon, ça dépend de quel côté on se place. Pour les crédits à moins de 200 000 euros, on n'a plus de questionnaire de santé. Alors pour ceux qui ont des petits problèmes de santé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui n'en avaient pas, en revanche, c'est pas forcément une bonne nouvelle puisqu'il existe ce qu'on appelle la mutualisation des risques. Et donc si je ne sais pas si mon emprunteur est en bonne santé ou non, j'aurais tendance quand même à peut-être un tout petit peu booster les tarifs pour me couvrir au mieux. Est-ce que c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui? Est-ce que finalement, cette bonne nouvelle qui était la disparition du questionnaire de santé pour ces crédits-là, est-ce que finalement ça s'est pas retourné contre les emprunteurs avec une hausse des tarifs?
Alors je vais répondre, ça dépend. Alors pour être très précis, il n'y a plus de questionnaire de santé si le crédit de moins de 200 000 euros, enfin si vous êtes assuré sur moins de 200 000 euros et si vous avez moins de 60 ans à la fin du crédit. Donc dans ce cas-là, en effet, on n'a plus le droit de poser de questions de santé pour souscrire à un contrat d'assurance emprunteur. Il y a des partenaires, nous on a des partenaires qui n'ont pas augmenté leur tarif, pas d'un centime. Donc tant mieux pour les gens concernés. D'autres acteurs ont été contraints d'augmenter leur tarif de l'ordre de 15 à 20% en fonction des acteurs.
C'est pas indolore, hein.
C'est pas du tout indolore, mais ça reste très compétitif par rapport à des contrats bancaires.
Vous parlez juste d'un aspect compétitif, il nous reste une minute. Vous nous donnez un exemple d'économie possible pour bien que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent se rendent compte de l'intérêt de se pencher un petit peu plus sur l'assurance de leur prêt.
Alors, c'est colossal, hein. Si vous prenez un cas, je dirais, classique d'un couple de trentenaire, non cadre, à employé, non fumeur, qui emprunte 250 000 euros, ils peuvent passer de 30 000 euros d'assurance à 8 000 euros d'assurance, donc plus de 20 000 euros d'économie sur la durée totale du crédit. Alors par rapport à un projet immobilier, on ne le voit pas forcément passer, mais en fait 20 000 euros, quand on prend du recul, c'est colossal. C'est une voiture électrique, c'est des travaux, c'est l'étude des enfants.
La pièce qu'on a perdue.
C'est la pièce qui manque. Donc c'est vraiment l'opportunité de faire des grosses économies. Et là, je prends un cas moyen, mais dans les grandes villes où l'immobilier est très cher, quand vous empruntez 400-500 000 euros, on passe sur des économies de 50 000 euros. Donc ça vaut vraiment le coup de comparer le tarif et évidemment les garanties.
Et n'oubliez pas de regarder votre contrat au démarrage du crédit. Vraiment, j'insiste là-dessus. Regardez les garanties que vous signez. L'enjeu, ce sera de pouvoir trouver des équivalences avec des tarifs compétitifs à la suite si vous voulez me changer d'assurance de prêt.
Voilà. Décryptage de l'assurance emprunteur, c'est important. Ça vous concerne. C'est 16 000 contrats. Hein.
16 millions de contrats.
16 millions, pardon.
Ouais, 16 000, ça me paraît.
16 millions de contrats en France.
16 millions
ça
de contrats.
Fait un peu de monde concerné.
10 millions de ménages. Un tiers des ménages en France ont un crédit immobilier et 80% ont encore l'assurance bancaire.
Voilà. Challengez votre banque. Parfois, il y a des banques qui sont très compétitives, il faut le dire. Challengez.
Elles ont même baissé leurs tarifs, ça c'est vrai. Elles ont baissé leurs tarifs depuis l'ouverture à la concurrence, précisément.
Massivement. Et parfois aussi, elles proposent une réduction tarifaire pour retenir les clients, ce qui est une très bonne chose. C'est au bénéfice du client.
Les frais. Christian Fontaine, tu es revenu. Serais fier de nous.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Marie Cœur de Roy, qu'on retrouve demain, parce que demain c'est vendredi. Et oui, on a tous l'impression d'être lundi.
Et ça faisait tellement longtemps que je vous propose de parler rénovation demain. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui changent à partir de la semaine prochaine.
Demain, dans les experts de l'immobilier, à retrouver dès 11h15, nous avons une demi-heure dédiée à la rénovation. On va parler DPE, on va vous apporter des réponses concrètes sur comment prendre en main votre chantier, comment trouver votre financement, comment trouver les bonnes personnes pour rendre votre habitat ou votre investissement immobilier en meilleure forme. Merci beaucoup Stéphane Bolelli et l'équipe de CAFPI pour ce topo assurance emprunteur assez sexy. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Non, mais on dit ça sur un ton sérieux, sur un ton avec le sourire, mais c'est important ce sujet d'assurance emprunteur. Vous nous avez rappelé les économies qu'on peut faire qui peuvent servir à financer d'autres choses quand même que de payer des assurances trop chères. À suivre, on va s'autoriser un petit moment respiration électrique. On va parler auto électrique, secteur de l'électrique en bourse. Qu'est-ce que ça donne? Les pure players, la concurrence chinoise. Vous, en tant qu'investisseur dans ce secteur, à suivre avec nos deux experts marché, mais aussi automobile. Thomas Veillé depuis la Suisse et puis Antoine Larigauderie depuis Euronext. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles, on zoome sur certains secteurs. Dans les prochaines minutes, on va s'intéresser à l'électrique, à la voiture électrique. En bourse, qu'est-ce que ça donne? Et on fait ça avec deux experts que vous connaissez bien sur notre antenne. D'abord, Antoine Larigauderie depuis Euronext qui est branché une grande partie de la matinée avec nous. Rebonjour Antoine. D'aucuns ne savaient pas,
bonjour.
Mais vous êtes fan de voitures, en plus de votre expertise boursière incommensurable. Et donc, on va essayer de dérouler une vraie pensée avec votre équivalent suisse, Thomas Veillé, que nos auditeurs fidèles connaissent. Vous êtes souvent avec nous le lundi. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas, vous êtes chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur et puis surtout une des plumes du site investir.ch. Vous aussi, vous êtes très fort en bourse et vous êtes aussi passionné de voitures. Vous êtes le meilleur duo pour aborder ce sujet de l'électrique en bourse. Parce que oui, vous le savez, la bourse suit et corrélée évidemment à ce que font, s'intéresse de près à ce que font les constructeurs automobiles. On va essayer de faire un tour d'horizon. On va parler des entreprises qu'il faut suivre, on va parler des performances des pure players en bourse, on va parler de la concurrence chinoise et on va aussi parler des performances peut-être des acteurs français. Stellantis, on va parler aussi un petit peu de Renault et aussi au niveau Europe, de Volkswagen, certains groupes qui finalement choisissent de ne pas rentrer en bourse. Qu'est-ce que ça dit de ce secteur et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ultimement, investisseurs particuliers? Antoine, si vous voulez bien, on va commencer par vous. J'aimerais que vous me disiez quelles sont les entreprises que vous surveillez de près en bourse. Quand on parle voiture, véhicule électrique et marché, de qui parle-t-on?
Alors évidemment, c'est difficile de passer à côté de Tesla. Attention, Tesla, c'est très particulier. Quand on achète Tesla, vous savez, c'est une structure financière assez baroque, finalement. On achète un bout d'Elon Musk et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On achète un bout d'Elon Musk, effectivement. On achète aussi, d'une certaine manière, un petit bout de Twitter. On achète un petit bout de SpaceX. On achète un petit bout des actifs solaires et d'ingénierie électrique. Et on achète accessoirement un petit peu de Bitcoin. Donc, est-ce que Tesla est rigoureusement un pure player de la voiture électrique? On en est à se poser la question. Non, Tesla, voilà, on achète du Elon Musk, très clairement, quand on achète du Tesla. Mais enfin, ça reste, à l'heure actuelle, une forme de baromètre de l'automobile électrique et de sa santé. Les pure players du côté des États-Unis, on les connaît aussi, et le ménage commence à être fait. C'est vrai qu'on connaît Lucid, qui a à son tour de table aussi un gros morceau qui s'appelle l'Arabie Saoudite, via des sociétés d'investissement d'État. On a aussi Rivian, qui est un rival assez intéressant, parce que c'est le pick-up électrique, mais parallèlement, c'est aussi la fabrication d'engins de livraison électrique pour Amazon, donc très gros contrat. On a également VinFast, le constructeur vietnamien qui est venu ce côté du côté du Nasdaq. Il y a NIO, constructeur chinois qui est venu aussi ce côté du côté des États-Unis. Donc on regarde un peu tout ça en bourse, parce qu'il faut bien dire que côté européen, on a surtout des constructeurs généralistes qui font de l'électrique et qui ont bien du mal à le valoriser, ou bien du mal ne serait-ce qu'à le structurer quitte à vouloir ensuite, après l'introduire en bourse, et c'est le cas de Renault, qui a mis au calendre grec son projet d'introduction d'Ampère. Donc vous voyez, c'est un paysage assez disparate, fait de pure players. Mais alors, il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent quand on mise en bourse dessus, parce qu'ils ont un bilan boursier assez catastrophique sur les 52 dernières semaines. Ou alors, des constructeurs généralistes, finalement, qui ont ce mérite de financer la transition vers l'électrique par des ventes de voitures thermiques ou hybrides, hein, bien sûr. Mais c'est ces constructeurs généralistes-là qui, peut-être, sont le plus à regarder du côté de l'investisseur particulier, à moins d'avoir vraiment une logique d'investisseur dans une start-up qui n'est pas prêt à perdre de l'argent dessus.
Thomas Veillé, comment vous complétez le tour d'horizon d'Antoine en termes d'acteurs à suivre et votre regard peut-être sur la dualité entre d'une part les pure players et les généralistes qui financent leurs innovations électriques grâce au thermique ?
C'est difficile d'en rajouter, tout est dit. Je crois que tout est dit, le tour d'horizon est parfait. J'ajouterais effectivement qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde atypique, puisque d'un côté, on a Tesla, où comme il l'a très bien dit, Tesla est une marque hybride, où finalement, c'est pas que Tesla, mais c'est ce qui représente le mieux la voiture électrique, et tout le reste sont ceux qui arrivent derrière. La grande question aujourd'hui, c'est que les gros acteurs électriques viennent surtout du côté de la Chine, et ceux-ci, pour l'instant, ils sont pas forcément très, très intégrés dans nos régions aujourd'hui en Europe, parce que problématique d'import-export. Et puis, il y a aussi toute cette confiance du côté est-ce que vraiment j'ai envie de rouler dans une voiture chinoise ? Ça reste encore très bloqué de ce côté-là. Mais après, le reste, c'est vrai qu'aujourd'hui, les performances sont catastrophiques, globalement. Même si Tesla vient de rebondir violemment après plus des espoirs que de la réalité vraiment en termes de performance, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si ce secteur... Enfin, moi, j'irais peut-être un peu plus loin en me disant, mais est-ce que réellement, la voiture électrique, c'est l'avenir ? Parce qu'on voit aussi que depuis l'arrêt de certaines subventions dans certains pays, les gens sont moins friands de voitures électriques et se repositionnent un petit peu plus sur l'hybride qui a d'autres avantages que d'avoir uniquement une motorisation électrique. Et donc, il y a un peu un changement de paradigme qui est en train de se faire. Alors, la grande question, c'est quid de l'avenir ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on a envie de prendre un pari ? Et je regardais un petit peu les différents concurrents. C'est clair qu'aujourd'hui, aller se positionner sur un Rivian, par exemple, ou un Lucid, il faut avoir beaucoup de courage. Parce que je ne sais pas si vous avez croisé beaucoup de Rivian ou de Lucid dans vos rues aujourd'hui, moi pas. Donc c'est aussi cette représentation où c'est quand même un marché qui est extrêmement confidentiel. Tesla, on voit bien qu'ils sont partout, mais c'est à peu près les seuls qu'on voit partout en voiture 100% électrique. Ou alors, effectivement, ces nouveaux constructeurs, enfin, ces constructeurs historiques qui ont tous créé leur division électrique avec des succès plus ou moins mitigés en fonction des différentes marques.
Antoine Larigauderie de Pure Next, vous le soulignez souvent, ce qui est fascinant avec Tesla, ou ce qui est en tout cas remarquable, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de modèles de voitures. Nous, on est à Paris. À Paris, on voit beaucoup, beaucoup de modèles 3, quelques modèles X, mais voilà, il n'y a pas plusieurs sous-modèles à l'intérieur de ces lettres, on va dire. Et ça, c'est quand même remarquable. Qu'est-ce que ça dit du futur de la marque ? Qu'est-ce que ça dit ? En fait, on est sur un marché complètement homogène, notamment en France, où finalement la voiture électrique doit s'arrêter à la Tesla ?
Disons que c'était la stratégie de base d'Elon Musk, et en ça il avait pas tort, parce que le succès vraiment est incontestable, d'avoir une gamme resserrée autour de quelques modèles, une voiture moyenne, un SUV moyen, une grosse voiture, un SUV gros, et éventuellement à côté le Cybertruck, mais qui fait vraiment pas le figure comparé aux autres chiffres de Tesla, parce que c'est vraiment du flux. Le Cybertruck, ça tient vraiment de l'expérimentation. Maintenant, la stratégie, elle a été payante. Cela dit, Tesla, ils sont comme tout le monde, et Thomas Veillé l'a bien dit, il y a le plafond de verre, et ça fait des semaines qu'on en parle, ce plafond de verre d'adoption de l'électrique au sein de l'industrie automobile, au sein de la clientèle automobile, c'est-à-dire que les early adopters, ils ont fait leur marché. En plus, Tesla, ils ont une logique vraiment communautaire là-dessus, et qui a très très bien marché aussi. Simplement, on en arrive aux limites du taux de pénétration possible de l'électrique au sein de la clientèle. clientèle automobiliste. Parce que au-delà, ben, on en vient à des considérations de prix, de praticité, d'intérêt économique. Il y a des gens qui n'ont absolument pas besoin de véhicules électriques. On ne va pas les faire passer à l'électrique de force. Donc tous ces gens-là, ben, ils commencent véritablement à constituer un plafond de verre sur l'industrie de l'automobile électrique. Et une fois qu'on a le plafond de verre, qu'est-ce qui se passe ? Ben, y a guerre des prix. Et quand on a une gamme qui est aussi peu développée que celle de Tesla, alors c'est vrai que lors de la dernière présentation des résultats, Elon Musk a promis de nouveaux modèles, et en particulier a commencé par une petite citadine aux alentours des 20 000 $, qui sera la petite Tesla, dont on entend parler depuis 2-3 ans, hein, et qu'on ne voit pas venir. Il y avait aussi la sportive, le Roadster, qu'on attend toujours. Vous voyez, tout ça est assez diffus, et pour l'instant, on a surtout l'impression que Tesla bataille pour au moins conserver ses parts de marché sans trop rogner sur ses marges, ce qui est difficile, tout en essayant de conquérir un petit peu plus d'automobilistes. Mais ça, c'est un chantier encore plus difficile, je pense.
Il y a quelques mois, en début d'année, Elon Musk a parlé déjà de la concurrence chinoise et ça refroidissait pas mal les investisseurs. Il disait s'il n'y avait pas de barrière commerciale, les constructeurs chinois démoliraient toutes les autres entreprises du marché. Cette concurrence chinoise, elle est notamment incarnée par BYD. Comment on regarde BYD en bourse, Thomas Veillé, et BYD, il me semble, dans laquelle Warren Buffett est investi.
Est-elle investie ? Je crois qu'il a réduit une partie de son exposition récemment. Mais effectivement, la concurrence chinoise est extrêmement présente, tout simplement parce que finalement, la réflexion d'Elon Musk aussi par rapport à la structure de Tesla, on l'a dit, avec très peu de modèles et finalement très peu de diversification au niveau des différentes voitures, va vers une espèce d'homogénéisation du système. Et finalement, les Chinois sont très compétents pour ça, pour venir avec des voitures très bon marché. Donc aujourd'hui, si vous avez plus d'intérêt, j'ai envie de dire, ludique ou passion, qui est quand même quelque chose de très attaché à l'automobile, eh bien, vous allez vous acheter simplement une voiture qui va vous coûter 10 000 $ chez BYD, parce que les modèles bon marché sont nettement bon marché que ce que Musk promet d'offrir ces prochains temps. Ce qui fait que finalement, c'est quelque chose qui risque d'être, si ça devait se produire, mais je ne le vois pas non plus arriver dans cette direction, c'est quelque chose qui sera très très important à surveiller ces prochaines années. Mais bon, moi, quelque part, du côté passion automobile, je crois que c'est quelque chose qui est toujours assez symptomatique, c'est que l'automobile reste un truc qui est un truc de passionné. Les gens aiment la voiture, c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance, je suis aussi partiellement journaliste automobile, donc j'en ai testé pas mal. Des électriques et des non-électriques, et je peux vous dire que je reviens toujours à des moteurs normaux, des moteurs thermiques, à la limite de l'hybride, mais c'est vrai que le côté 100% électrique pose encore des problèmes de limitation, de déplacement, tout simplement. On n'est pas encore 100% rassuré au niveau de la batterie. On sait tous qu'au niveau de l'autonomie, ça reste un stress permanent, où on ne sait jamais si on va arriver à domicile ou à destination. Et on a eu plusieurs exemples de tests qui ont été faits, où on se rend compte que pour l'instant, ce n'est pas encore 100% fiable. Alors, déjà, si on fait sauter les barrières tarifaires, c'est clair que toutes les marques européennes et américaines vont se faire vraiment détruire par les Chinois, ça c'est une quasi-certitude. Sauf le seul point que je mettrais en suspens, c'est comment est-ce que le consommateur occidental va lui passer volontairement à la voiture chinoise ? Qu'est-ce qui va lui apporter ? Qu'est-ce qui lui donnera envie d'aller acheter cette voiture en dehors du prix ? Aujourd'hui, on voit aussi, il y a aussi une question de recul, parce que les voitures électriques sont quelque chose de relativement récent, et on voit quand même qu'aujourd'hui, cette nouveauté pose des limites. Quand vous voyez les tests aussi, après 4-5 ans sur les Tesla, c'est catastrophique. Au niveau du vieillissement de la voiture, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, il y a pas mal de questions qui vont se poser au fur et à mesure des années là-dessus, et effectivement, l'arrivée des constructeurs chinois, on en parle beaucoup, mais de nouveau, moi, j'en ai pas encore touché une, ni vu une, physiquement.
Vous n'avez pas encore conduit la nouvelle Xiaomi SU7 ?
Non, je crois que même si on me la proposait, je pense que je serais en vacances à ce moment-là.
Bon, pas de commentaires. Je vous donne quelques chiffres quand même. Hein. Tesla a livré plus de 1,2 million d'exemplaires de son modèle Y en 2023. Ça fait de ce modèle le véhicule le plus vendu au monde. La Xiaomi SUV dont on vient de parler a été commercialisée il y a quelques semaines. Elle veut concurrencer plutôt la Model 3 de Tesla et la NIO ET5, si je ne dis pas de bêtises. Ça serait ça en équivalent de gamme. On est sur des voitures autour de 30 000 euros. Je voudrais finir cette séquence, messieurs. On parle d'automobile électrique.
électriques et de bourses. Un mot peut-être, Antoine, pour vous. Renault et Volkswagen qui repensent leur entrée en bourse. Qu'est-ce que ça dit aux investisseurs particuliers qui nous écoutent et qui nous suivent?
De l'impossibilité de valoriser très très clairement où va la voiture électrique en termes économiques. Et ça, Luca De Meo en a bien fait l'aveu en ajournant l'introduction en bourse d'Ampère. Volkswagen, c'est vrai que c'est sans doute le constructeur qui a le plus investi sur les 10 dernières années pour la transition vers l'électrique, mais lui aussi se retrouve face à ce fameux plafond de verre. En plus, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de concurrence chinoise. Après, il faut voir comment on la gère. C'est vrai que Stellantis, par exemple, a eu nez creux. Vous savez, ils ont investi 5%. Ils ont investi pour acquérir 5% de Leap Motors, qui est un constructeur chinois qui fabrique la TO3. J'ai eu la chance de l'essayer d'ailleurs pour BFM Auto, qui est une petite voiture électrique citadine, sans trop de prétentions, mais très efficace. Et puis surtout, qui a le mérite d'être pas cher et rentable à fabriquer. Parce que c'est aussi ça le problème des grands constructeurs européens, c'est à quoi bon fabriquer des voitures sur lesquelles on va perdre de l'argent. Donc là, ils ont pris 5% du capital de Leap Motors et obtenu l'autorisation de fabriquer la petite TO3 dans des usines en Italie. Alors bon, autant dire que ça a provoqué un tollé, mais finalement c'est peut-être la meilleure des solutions, c'est-à-dire au lieu d'avoir peur de la concurrence chinoise, de se dire mais ces gens-là vont nous détruire, non, c'est de travailler avec eux pour le développement de certains véhicules dont on a besoin sur le marché. Parce que le but ultime, c'est quoi? C'est de décarboner le parc automobile européen, qu'on le veuille ou non. Et ça paraît être une bonne solution et un bon système de gestion. Maintenant, on le voit, c'est aussi le reflet des errements qu'on a à valoriser les activités électriques au sein des constructeurs généralistes. Ça a aussi a trait au fameux plafond de verre commercial dont je vous parlais, mais aussi au changement réglementaire. Ça change tous les 4 ans, quasiment toutes les mandatures présidentielles ou du côté des politiques européennes en termes d'incentives, en termes de réglementation. Donc tout ça est très très compliqué à valoriser et pour l'instant, les constructeurs, ils se replient sur le thermique et sur l'hybride. Parmi les derniers résultats que j'ai vus, quand même les plus prometteurs et les plus intéressants, c'est peut-être bien ceux de Ford, qui a quand même fait beaucoup mieux que le consensus et qui a signalé que justement, plutôt que d'aller à tête baissée vers l'électrique, ils ont bien vu que leur vente sur le Mustang Mach-E, c'était plus ça, après 2 ans de commercialisation, ils font retomber le soufflet et ils mettent les bouchées doubles sur l'hybride en se rendant compte que la transition sera sans doute beaucoup plus longue que prévu.
Merci Antoine. Thomas, le mot de la fin, pour ceux qui voudraient miser en bourse de manière très passive sur le secteur auto, est-ce que vous recommandez les ETF sur l'auto électrique?
L'avantage des ETF sur le secteur électrique, c'est que quand vous regardez un peu la composition de ces ETF, à l'intérieur, vous n'avez pas que de la voiture électrique. Donc, c'est pas un pur player, parce que sinon, vous aurez 80% de Tesla et pas grand-chose d'autre. Mais là-dedans, vous avez de la batterie, vous avez de la technologie de batterie, la technologie de moteur électrique qui peut être appliquée à d'autres choses. Donc, ça vous permet de vous diversifier. Perso, je reste intimement convaincu que pour l'instant, ça peut être un pari à prendre, mais d'abord en restant extrêmement parcimonieux en termes de taille, parce que je veux croire que la voiture électrique n'est pas encore vraiment optimale. On doit régler des problèmes d'autonomie, on doit régler des problèmes de batterie, et tant qu'on n'aura pas ce genre de règlement, d'amélioration, en tous les cas, les gens ne vont pas avoir confiance. Mis à part les gens comme moi qui sont trop vieux peut-être pour dire moi je ne mettrai jamais de l'argent dans une voiture électrique parce que j'ai besoin d'entendre un moteur, en dehors de ça, le stress de rouler, et pour avoir fait des tests dans les montagnes suisses avec un Model X, le stress de pouvoir espérer éventuellement trouver un superchargeur quelque part, c'est épuisant nerveusement. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pour ça que faire un pari d'investissement aujourd'hui, de dire dans 5 ans les voitures électriques auront pris le dessus sur le reste, j'y crois pas du tout. Donc l'ETF aujourd'hui est diversifié, soit, mais vous prenez quand même un gros risque parce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la performance de sociétés comme Rivian ou comme Lucid, qui sont des purs players voitures électriques, parce que Tesla, c'est pas que de la voiture électrique, eh bien, on voit quand même qu'ils ont été tellement bas que c'est difficile d'imaginer qu'ils aillent plus bas, ou alors ils vont faire faillite. C'est la seule possibilité qui reste. Donc, le risque est quand même extrêmement présent, mais au moins, vous pourrez dire que vous avez la diversification. Mais je pense que ça peut aussi être un château de cartes, parce que si tout d'un coup, on voit effectivement, comme le disait Arnaud, on va pivoter à un moment donné sur peut-être plus de l'hybride comme l'a fait Ford. Et à ce moment-là, si tout d'un coup tout le monde va sur l'hybride et puis se dit moi je suis plus à l'aise avec un hybride qu'avec un 100% électrique, eh ben ça peut faire un peu l'effet château de cartes et tout le monde va s'effondrer au fur et à mesure. Et c'est ce qui me fait un tout petit peu peur de ce côté-là. Alors je suis évidemment pas un avocat de la voiture électrique parce que j'aime pas, soyons très francs. Mais voilà, le risque pour moi c'est vraiment ce fait que tout d'un coup on se dise ah non mais c'est pas possible, c'est pas jouable. Et si vous regardez les quelques... On ne va pas rentrer dans le débat des batteries, mais quand on voit les métaux rares qu'on extrait pour mettre dans les batteries et d'où ça vient et comment ça se présente, il y a un autre débat qui peut être levé sur ce sujet-là aussi.
Eh bien, on l'aura, ce débat, dans une prochaine émission, si vous voulez bien, tous les deux, ce sujet de la voiture auto, de la performance en bourse, le long terme. Est-ce que l'électrique est l'avenir de la voiture? Finalement, c'est presque cette question qu'on s'est posée. Est-ce que l'électrique peut être l'avenir de la voiture? Merci beaucoup, Thomas Veillé, de l'équipe Investir.ch, depuis la Suisse. Et merci, Antoine Larry-Gaudry, de l'équipe BFM Business, depuis Euronext, La Défense. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous avez aimé ce sujet? Vous aussi, vous avez des questions sur la voiture électrique et la bourse, adressez-les-nous, on tâchera d'y répondre dans un prochain duo avec nos experts marché et auto. À suivre, on s'occupe de votre PER avec Bastien Baron.
Tout pour investir, investir autrement.
Vous le savez, le plan épargne-retraite a séduit beaucoup de Français, 10 millions, 100 millions d'encours. Comment on explique cet engouement avec nous? Notre gestionnaire de patrimoine, Bastien Baron. Bonjour Bastien.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes aux manettes de Justae Gestion Privée. Une question toute simple. Le sujet PER, plan épargne retraite, vous l'avez souvent avec votre clientèle plutôt fortunée?
Souvent oui, on l'amène pour différentes problématiques, pas forcément uniquement la retraite. On peut avoir des sujets de défiscalisation également qui vont intervenir avec potentiellement des sauts de tranche qui vont arriver à la retraite. Donc des clients qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui vont forcément normalement en gagner potentiellement moins à la retraite et vont déjà obtenir un gain fiscal en fait là-dessus. Et le cas qu'on a aussi énormément en fait, c'est sur la partie protection du conjoint, parce que là finalement en fait, ça, on s'en sert un petit peu comme assurance décès, prévoyance, etc. Et principalement protection du conjoint. Pourquoi? Parce que depuis 2007, la loi TEPA, le conjoint est exonéré de droits de succession. Et finalement, un foyer en fait, qui va épargner aujourd'hui dans un plan épargne retraite et va bénéficier de 41-45% d'avantage fiscal selon sa tranche marginale d'imposition, le seul moyen finalement de ne pas repayer une partie de ce gain à la sortie, parce que lorsqu'on sort du plan épargne retraite, ça va s'ajouter à nos revenus à la retraite et donc on va être refiscalisé, on va être fiscalisé à ce moment-là, c'est s'il y a décès. Et s'il y a décès pour une personne qui est exonérée comme le conjoint survivant, finalement, en fait, personne ne repaye ces 41 ou 45% d'avantage fiscal qu'on a eu à l'entrée. Donc, nous, on s'en sert aussi comme un petit peu comme assurance décès, protection du conjoint, de ce point de vue-là.
Défiscalisation, solution de prévoyance, assurance décès, protection du conjoint. Ce n'est pas forcément les usages auxquels on pense le plus quand on parle du PER, surtout cette semaine où on a tous célébré, les médias ont beaucoup célébré le succès de ce plan. Est-ce que vous pouvez nous toucher un tout petit mot du PERP? Alors le deuxième P étant pour populaire, on en parle moins. Il est moins populaire, ce plan épargne retraite populaire.
Tout à fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y avait le terme populaire dedans, alors que ça ne l'était pas vraiment, parce que c'est... comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, l'argent qu'on va verser dans un plan épargne retraite populaire ou dans un plan épargne retraite par ailleurs, ça va se déduire des revenus, de notre revenu imposable. Donc en fait, plus on est dans les tranches hautes, donc plus on gagne beaucoup d'argent, plus c'est intéressant. Donc finalement, ce n'était pas réellement populaire.
C'est pas un outil pour les CSP moins ou les gens à revenus moyens.
Ouais. Bah non, parce que quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, déjà, il n'a aucun intérêt d'investir dans un plan épargne retraite, qu'il soit un PERP ou non. Quoi. Et le PERP, en fait, a été remplacé progressivement par le plan épargne retraite, donc le PER, à partir de 2019. Donc là, c'était la loi Pacte en fait, qui a été promulguée. Et donc là, la grosse différence, pourquoi c'est moins intéressant? Un gros sujet, en fait, c'est que les Français avaient beaucoup de mal sur le système de rente. C'est-à-dire que le PERP, quand on voulait récupérer son argent à la retraite, on pouvait récupérer jusqu'à 20% capital et le reste sous forme de rente. Ça plaisait pas beaucoup. Le plan épargne retraite aujourd'hui, il a quand même révolutionné tout ça sur la partie individuelle. C'est-à-dire qu'on a la main pour récupérer 100% capital dès qu'on a l'âge légal de départ en retraite, ou on peut attendre pour le débloquer. On peut en prendre une partie tout de suite et en reprendre une partie derrière. On peut toujours partir sous forme de rente si c'est la solution qui nous intéresse. Donc c'est beaucoup plus souple. Et en fait, c'est ça qui a été, qui a permis aussi, je pense, quand on voit les chiffres aujourd'hui. Et c'était pas 100 millions, c'est 100 milliards d'encours.
Donc j'ai dit 100 millions, ouais, pardon. 100 j'ai un gros problème entre millions et milliards cette semaine. Je présente mes excuses aux auditeurs. 100 milliards, pardon, d'encours, ouais, évidemment.
Donc les montants, en fait, sont assez, assez importants et ça devrait continuer dans ce sens-là. Surtout que, bon, le sujet de la retraite, c'est un vaste sujet déjà depuis quelques années. On a fêté les 1 an aussi de la réforme des retraites.
Absolument. Voilà. On a Thibaut qui a 30 ans et qui nous demande si c'est une bonne idée d'ouvrir un PER. Je pense que la réponse, c'est oui. À partir du moment où vous payez un peu plus que 10% d'impôts.
Exactement.
On va dire que c'est ça. Et on a surtout une question en une ou deux minutes, si vous pouvez, mon cher Bastien, nous aiguiller, enfin nous répondre. Répondre en tout cas à Raphaël qui nous a écrit. Il avait 2 PERP depuis quelques années. Il a fait une demande de sortie anticipée dans le cadre du déblocage pour situation exceptionnelle, parce qu'il y a quelques situations exceptionnelles, oui, qui permettent de débloquer. En l'occurrence, pour lui, c'était l'expiration de ses droits aux allocations chômage. Il a bien été remboursé par son assureur, mais certaines sommes ont été amputées. On lui a prélevé des cotisations sociales sur les montants retirés et pourtant il ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre en quelques phrases ?
On peut lui répondre effectivement en fait qu'il y a des c'est un vrai sujet en fait, la partie sortie anticipée en cas de fin des allocations chômage. Il faut savoir que ça fonctionne déjà uniquement quand c'est suite à un licenciement.
Ouais.
Donc si c'est une rupture conventionnelle, une démission, etc., ça va pas fonctionner. Donc ça fonctionne dans ce cas-là. Derrière, il y a encore un flou. C'est-à-dire qu'il y a l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc qui est énormément sur la partie assurantielle, qui s'est positionnée en disant que les prélèvements sociaux ne devaient pas être prélevés. Il y a la Cour d'appel, je crois que c'est de Grenoble, qui s'est positionnée aussi en disant la même chose, mais l'administration fiscale ne s'est pas encore positionnée. Donc là, on parle des prélèvements sociaux, c'est 9,1%. Et il y a un sujet, en fait, sur tout ce qui est... pension de remplacement. Donc là, on est vraiment dans ce cas-là. En fait, ça va remplacer du coup la fin des allocations chômage, etc. Et pour l'instant, y a un petit peu un flou. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est que ce que je lui dis là, c'est pas encore opposable à l'administration fiscale.
Mais peut-être ça le sera.
Ça le sera un jour, mais il n'y a pas une jurisprudence en fait qui a été actée sur le sujet. Donc, il y a des compagnies d'assurance, on va dire, qui sont un peu ceinture bretelle, qui vont prélever ces 9,1% de prélèvements sociaux pour les redonner à l'État. D'autres qui sont peut-être plus souples et ne vont pas forcément le faire parce que la position n'est pas claire.
Voilà ce qu'on pouvait vous répondre, cher Raphaël. On le voit, gros flou. En tout cas, merci Bastien pour ce topo. PER versus PERP, cet intérêt pour les Français, 10 millions séduits, 100 milliards d'encours et différents usages de ce PER qui peut aussi fonctionner peut-être pour les profils les plus capitalisés, à la fois comme un outil de défiscalisation et aussi, vous l'avez entendu, comme une solution de prévoyance, d'assurance décès et de protection de votre conjoint. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble des séquences de cette émission qui touche à sa fin. Sandra Gandoin nous a rejoint. Bonjour, chère Sandra.
Bonjour, Lorraine.
Le programme avec vous.
Plein de sujets, le CPF, le phishing, les cyberattaques, la prise de parole en public, comment optimiser aussi son expérience client quand on a un site, par exemple. Vous nous posez toutes vos questions à vous sur la vie en entreprise, votre situation de patron, à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. Nos experts, ils sont 4 et ils sont là pour répondre à toutes vos interrogations dans un instant.
Vos réponses sur la vie de l'entreprise, c'est à midi, dans 4 minutes, à 15h, vos réponses sur le Web3 et les cryptos. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine.
On a Amadou qui vous a posé la question, pourquoi le bull run Bitcoin n'a pas encore commencé? Vous allez lui répondre demain. Mais avant ça, vous avez votre émission aujourd'hui. Quel est le programme de votre émission?
On va faire une spéciale Web3 et IA. En quoi ces deux technologies peuvent être complémentaires, que l'IA peut servir le Web3 et le Web3 peut servir l'IA, notamment contre certaines dérives. Donc on en parle tout à l'heure à 15h.
Web3 et IA au programme de BFM Crypto, le club Amadou. Votre réponse sur pourquoi le bull run n'a pas encore commencé demain dans l'édito crypto, tous les jours, tous les vendredis, dans Tout pour investir. Bonne écoute sur BFM Business, on se retrouve demain.
Tout pour investir sur BFM Business.